avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio, aucun rapport avec Paris, à Avignon, tiens, sur 95.2. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec le projet World Wide Woman, un cépage autrichien qui a un nom incroyable, le vignoble de Moselle. Et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, deux femmes formidables et dans le vent, Hélène Piau et Aurélie Labruyère. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et deux hommes merveilleux et très bien coiffés, David Cobold et Philippe Aubrac. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, on vous accueille, vous, Aurélie Labruyère, qui était directrice notamment des services académiques chez FADEB, pour nous parler de ce film de Cédric Clapiche, passionné du vin, qui a tourné un joli film en Bourgogne.
Ce qui nous lie, du verbe lier, L-I-E, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres? Eh bien, le vin, évidemment, c'en est un exemple. Cédric Clapiche, c'est pas un hasard, probablement, s'il est fan de vin. Il est né en 1961. Je vous le donne en mille, une des plus grandes années bordelaises, n'est-ce pas, Philippe Forbrac?
Philippe, il est pas loin, Philippe, mais...
Pas que.
Voilà, et on a eu le plaisir de le recevoir dans le cadre de l'Académie du vin de Bordeaux, qui a pour responsabilité de cultiver le rayonnement des vins de Bordeaux autour des beaux-arts. Le cinéma, c'est un des beaux-arts, c'est le 9e art. Donc recevoir Cédric Clapiche à Bordeaux pour projeter un film sur la Bourgogne,
c'est chaud,
gonflé,
ça,
hein, oui, n'est-ce pas? Et Cédric dit en rigolant d'ailleurs que sa plus grande victoire quand il a projeté son film Ce qui nous lie, c'était d'abord à Beaune, quand il l'a projeté devant les vignerons. Il a eu très peur que les vignerons se moquent un petit peu de son film ou le reçoivent mal, et en fait sa plus grande victoire, c'est que ça a été un grand succès, d'abord dans le milieu viticole, que certains ont même pleuré, ému par cette belle histoire de transmission, la transmission d'un domaine viticole. On est en Côte de Beaune, on imagine un domaine entre Volnay, Pommard, domaine familial. Le père décède brutalement et trois enfants, deux frères et une sœur, c'est les fameux Pio Marmaille, François Civil et la charmante Anna Girardot, qui font partie des acteurs fétiches de Cédric Clapiche. On les retrouve tous les trois au moment où ils doivent donc transmettre le domaine, le recevoir, cet héritage, et ça va rejouer des histoires familiales profondes. Là, Cédric Clapiche nous parle de transmission, il nous parle évidemment de passion du produit, mais aussi de la terre. On découvre le personnage du fils aîné qui est parti en Australie, courir le monde, créer son propre vignoble là-bas, et qui revient un peu comme un fils prodigue dans sa Bourgogne natale, et son frère et sa sœur qui lui renvoient ce départ brutal. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le fils aîné qui va reprendre? Est-ce que c'est la sœur? Évidemment, il y a un petit peu de next-gen là-dedans, il y a de la féminité, c'est très sympa, de la culture et de l'éducation autour du vin, des scènes cultes que je recommande, comme pour tous les fans de Clapiche, ceux de ma génération en particulier, qui ont connu tous ces grands films, la trilogie, l'Auberge espagnole et compagnie. Vous avez des scènes cultes géniales, des vendanges en Bourgogne, mais avec des jeunes qui font la fête autour d'un grand format. Et puis on a derrière tout ça la rencontre d'un homme avec un terroir, c'est-à-dire que ce rat des villes qui était Cédric Clapiche commence à s'intéresser à la vigne parce qu'il avait envie de filmer autre chose que des villes. Vous remarquerez dans tous ses films, il y a toujours une ville qui est un personnage principal, il y a Paris, Barcelone, il y a New York, Saint-Pétersbourg. Et là, il décide d'aller raconter une histoire dans un décor in situ. Il va le filmer pendant une année complète, la vendange 2015 en Bourgogne, et puis il va revenir saison après saison nous montrer le passage du temps à travers la vigne.
Joli ça, donc vous le mettez combien, 19 sur 20?
Oui, alors franchement il faut aller le voir parce que c'est un film délicieux qui raconte une histoire qui concorde avec un lieu. C'est un film qui est un témoignage de la culture bourguignonne tout à fait authentique, et vous savez pourquoi? Parce qu'entre autres il s'est appuyé sur un vigneron comédien, faut le faire, une double carrière comme ça il n'y en a pas beaucoup.
Comment il s'appelle?
C'est Jean-Marc Rouleau, on aurait pu le mettre dans le Vino Quiz.
Bien sûr ça, Jean-Marc Rouleau, ça c'est
originaire de Vino Quiz. Marceau.
Exactement, et c'est lui qui à la fois apparaît dans le film, il fait partie des vignerons de ce fameux domaine familial, et c'était aussi un peu le consul temps, en tout cas le truchement pour Clapiche avec ce milieu bourguignon, c'est très réussi. L'Académie du vin de Bordeaux a fait ce pari de présenter le film à Bordeaux, ça a été aussi un grand succès évidemment. Et puis avec le Cédric Clapiche, on a eu le plaisir de le plonger encore dans l'univers bordelais, on l'a emmené à Aubrion, où il a goûté un 61 Aubrion, année de sa naissance, offert par le château. C'était la première fois de sa vie, et c'est là où nous, on l'a presque fait pleurer.
Ah, quand même, on peut dire qu'un 61 Aubrion, il faut nous inviter, même si on ne s'appelle pas Clapiche. Hein.
C'est clair. Oui, on veut bien faire un effort.
On peut s'appeler Clap.
Hein,
comme il voulait. Très bien, merci en tout cas Aurélie, ça donne envie. Et qui a vu le film d'ailleurs? Philippe Orbach, vous l'avez apprécié également.
Je confirme bien ce qu'a dit Aurélie Labruyère. C'est un film qui prend un peu au trip. Les images sont belles en plus, parce que c'est vrai que les panoramas bourguignons, selon les époques, hein, c'est très beau. Et même toute époque, parce que c'est saisissant, même en hiver, lorsque ça devient effectivement un peu lunaire. C'est très intéressant aussi.
Merci beaucoup. Oui, Aurélie.
Aller au cinéma, aller visiter des domaines viticoles, finalement, c'est un peu la même émotion. C'est ce qu'on se disait avec Cédric Clapiche à l'issue de cette projection.
Sauf
c'est une émotion collective. Non, mais ça peut se faire.
Il y a des
parallèles. Ce que je veux dire, c'est que c'est une émotion collective. Donc, il faut sortir de chez soi. On n'imaginerait jamais boire un verre de vin devant son ordinateur en train de regarder un film. C'est un peu tristounet. La rencontre qui compte. C'est le partage. C'est vibrer ce frisson devant un film. Partagez-le. Allez boire un verre de vin à la sortie. C'est évidemment parfait comme moment.
Merci beaucoup Aurélie, belle définition en tout cas. Vino Sud Radio retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, avec Elisabeth et puis Atalante.
Chef.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour chef.
Bonjour.
Alors on vous a accueilli il y a un an.
Oui.
Vous deviez partir.
Oui, exactement.
Et là vous êtes revenu.
Juste avant le départ.
Alors racontez-nous, rappelez-nous un peu les idées forces de ce concept mondial concernant le vin et les femmes.
Alors, donc on est 4 copines, on est parties pendant 6 mois sur la route des vins à travers le monde. En tout, on a exploré 7 pays. Finalement, on est allé dans plus de 60 vignobles. On a dégusté plus de 285 vins. Et l'idée, c'était dans chaque vignoble de prêter main forte aux vignerons, de découvrir la diversité.
Vous êtes étudiante en quoi ?
Nous, on était toutes étudiantes en école de commerce.
D'accord, donc toute école de commerce, d'accord.
Et finalement, cette année, on retransmet le projet à une nouvelle équipe. C'est génial, ça. Elisabeth.
Et toujours avec 4 filles ?
4 filles.
Les garçons, ils n'ont pas le droit de venir avec vous, alors.
C'est le World Wide Women.
Ah, bah, c'est vrai.
Ça s'appelle le World Wide Women, vous rappelle. On va traduire au cas où vous ne parlez pas anglophone. Les femmes internationales du vin, on va dire ça comme ça.
Cette année, on a une équipe multidisciplinaire avec à la fois une ingénieure agronome, une chercheuse en biologie, encore du commerce, et moi, je suis ingénieure généraliste.
Oh là, c'est génial. Alors, racontez-nous, là, 6 mois, c'est génial, non ?
Mais c'est surtout que des filles qui ont fait HEC, AgroParisTech, Centrale, enfin pas des petits cerveaux. Hein,
et comment vous êtes rencontrées toutes les quatre d'ailleurs ?
En prépa. Et on faisait toutes des études différentes, mais ça nous a beaucoup marqué.
Donc c'est le vin qui vous a lié ?
C'est ça, une passion commune.
Bien, David. Vous écoutez Aurélie, c'est bien.
Vous étiez membre
du
club œnologique de la prépa, c'est ça ?
En école surtout.
Et la passion du vin, elle vient d'où ?
Moi, c'est familial et sinon, c'est par le
partage. Pourquoi familial ?
Mon père fait du vin.
Où ça ?
Dans le Languedoc et en Chine, dans le Shandong.
Ah bah oui, c'est de Nicosia, c'est ça ?
C'est ça.
Ah bah c'est très bien ça. Donc ils vendent l'un des vins chinois les plus chers au monde, quoi.
Est-ce que vous y allez sur ce ?
Oui, j'y suis allée plutôt à ses commencements. Et là, ça fait longtemps, mais Atalante et les autres
World
Wide Women.
Vous êtes sûr que c'est...
Faites-nous rêver, quels sont les pays que vous allez visiter alors ?
Alors, il y aura certains pays en commun avec l'équipe précédente, parce qu'on n'a jamais assez exploré tous les pays. On va peut-être en découvrir de nouveaux, comme l'Inde, par exemple, qui développe de plus en plus son vin.
Dans combien de pays au monde, David Kebol, là je vous piégez là. Dans combien de pays au monde produit-on du vin ? En état représenté à l'ONU.
Un peu moins de 200 pays dans le monde.
200 pays dans le monde.
Ça c'est total.
Ouais. Sur les 200, il y en a plus de la moitié qui produit.
Plus de la moitié qui produit. Ouais. Il y en a même en Angleterre.
Même en petite quantité. En tout cas, qui font du raisin. Oui.
Ah, alors le raisin, est-ce qu'il vinifie un peu là, Hélène ?
Parce qu'on retrouve en Suède, au Danemark, donc il y a plein de pays. Oui.
Elles ont beaucoup de pays à visiter, c'est World Wide Women, women, absolument. Le projet donc, de l'été prochain, puisque effectivement il y a eu un premier voyage de fait par une première équipe à l'été 2019, le prochain est prévu pour l'été 2020, est en train de se mettre en place. Vos objectifs, c'est de prendre la Syrah, le cépage Syrah, comme objet d'étude pour aborder toutes les problématiques, changement climatique, etc.
Exactement, parce que la Syrah, c'est pas le seul, mais c'est un des rares cépages féminins et c'est le plus planté au monde. Enfin, le cépage féminin le plus planté au monde. Et donc, ce sera notre angle d'attaque, justement, pour mettre en valeur les World Wide Women et leur caractère.
Donc, l'idée, c'est d'apporter aussi quelque chose aux vignerons que vous allez voir, parce que bien sûr, vous allez apprendre plein de choses, mais il faut aussi apporter quelque chose à ces vignerons. vignerons.
Exactement. En fait, on a deux objectifs. À la fois, faire un documentaire à viser grand public, parce que finalement, on s'est rendu compte que les consommateurs connaissaient peu sur le vin, par exemple, dans les étudiants de notre âge.
Personne connaît.
Et c'est pour sensibiliser, notamment à l'heure du changement climatique.
C'est bien ça, ouais.
Et de la conscience écologique qui émerge pour qu'ils fassent des choix plus raisonnés. Et aussi pour les vignerons, avec, on a l'idée d'un guide d'innovation viticole pour mettre en parallèle toutes les innovations qui sont faites dans le monde. Et finalement, la science, c'est pas forcément, arrive pas toujours aux vignerons et parfois juste savoir qu'il y a des expérimentations à droite à gauche,
c'est
ça peut les
déjà,
aider
quoi.
À s'adapter par rapport aux enjeux actuels.
Atalante, votre meilleur souvenir, le pire là de aux 6 mois, c'était quoi?
Alors le meilleur, on va, c'est plus sympa.
Alors faut le pire aussi après. Vous êtes tôt, faut les deux parce que. Hein.
Alors le meilleur, c'est assez difficile, c'est une question assez classique mais qui finalement assez dure.
Une
assez
bonne, dur,
un bon souvenir.
Un très bon souvenir.
Un demi-souvenir, un quart de souvenir. Allez-y là, okay, Talente, vous êtes jeune.
L'Afrique du Sud, c'était le premier pays, c'est vrai que c'est un pays qui est magnifique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la région de Frenchouk et Stellenbosch. Ouais. Frenchouk, c'est la région des Français, des montagnes dingues. On était accueillis par des gens chaleureux, accueillants, passionnés. On a travaillé main dans la main avec eux, on a appris énormément. Donc ça, c'était le plus beau souvenir.
Le pire.
Il n'y en a pas vraiment.
Une méga engueulade.
Oui, ça peut être ça.
Les pneus de voiture qui crèvent.
Ça, c'est... Ouais, on a eu des pannes d'essence. Les galères, je dirais que ce serait en Chine. C'était assez compliqué de communiquer avec les vignerons. Parfois, on faisait 2 heures de route et on arrivait. En fait, la communication était impossible.
Impossible, quand même.
On partait bredouille.
Elisabeth, donc le programme, là, il est établi sur. Il est ferme définitif. On parlait de l'Inde dans les nouveautés.
Pas du tout. L'itinéraire n'est pas encore fixé. Ça dépendra des contacts qu'on a, des rencontres. Et des partenaires pour le projet. On est très ouverte à...
Alors les partenaires, tiens, allons-y pour terminer. Hein,
justement, c'est comme ça qu'on peut vous aider, en vous fournissant des données, des contacts, appel à nos auditeurs aussi, pourquoi pas.
Ils peuvent des sous contacter... aussi ou pas? Vous voulez des sous?
Bien sûr, on prend tout.
Moi, j'ai un contact pour vous, très utile. Je vous en parlerai après.
Oui, parce que là, on est juste à l'antenne, David.
Comment on vous contacte pour vous donner des idées de voyage et pour vous donner de l'argent? Comment on vous contacte?
Tout est sur le site internet et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et la cagnotte en ligne va bientôt avoir lieu, donc c'est juste worldwidewoman.com.
Très bien. Et la cagnotte en ligne sera sur Litchi.
Ce sera Eloasso, je pense. D'accord. Mais ce sera bientôt tout sur les réseaux sociaux.
Et l'objectif,
donc,
c'est de recueillir combien pour que vous soyez tranquille?
L'idéal, je pense, ce serait 10 000 euros par personne pour 6 mois.
10 000 euros par personne pour 6 mois, quoi. Voilà, allez, on les soutient. Il faut y aller également. Merci beaucoup à toutes les deux, hein, l'ancienne et la nouvelle. Merci également à tous. Dans un instant, on se retrouve ici au bar à vin du caviste Nicolas à Paris avec le Vino Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et puis le Vino Quiz.
Donc je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine c'est le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de Sébastien Durand-Viel et David Cobold. Voici la question de ce week-end. Avant de devenir viticulteur, quelle formation Marc Millade du Château Boutis a-t-il suivi? Réponse A, une formation d'ingénieur. Réponse B, une formation de sculpteur. Ou réponse C, une formation d'apiculteur. Pour répondre et gagner le livre, vous allez enfin vous y connaître en vin de Sébastien Durand-Viel et David Cobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Pio. Invino sur Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler d'un cépage autrichien au nom poétique.
Alors Alain, vous exagérez beaucoup, je vous soupçonne d'avoir un petit peu de sang marseillais, parce que vous dites que c'est imprononçable.
Allez-y.
Je vais vous le faire, c'est pas trop dur. Grüner Veltliner.
Bon appétit.
Ça va, on peut avoir pire,
vous avez raison.
C'est pas trop dur.
Ça veut dire vert, quelque part. Oui, en Allemagne ou en Autriche, il y a bien pire. Hein.
Donc c'est le Veltliner.
Dites ça à Marseillais, je peux vous dire qu'avant qu'il sorte.
Un peu vert. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 jours ou une semaine, je ne sais plus, j'ai parlé d'un de mes coups de cœur en dégustant dans les différentes parties de Wine Paris et de Vinexpo, au mois de février, début février. Eh bien, un des vins qui m'a vraiment... tapé dans le palais, c'était le Schloss Gobelsberg
dans
la région de Comtal.
C'est spécial quand même, les Anglais sont...
Et qui produit toute une gamme avec ce cépage Grüner Veltliner. Donc j'ai fait un peu de recherche comme il se doit. Le Grüner Veltliner, c'est un cépage dont on a la première mention à partir du 18e siècle, donc c'est pas très très vieux. dont un des parents, c'est n'est autre que le Tramineur, qu'on appelle en France le Savagnin qu'on connaît dans le Jura, par exemple, qui a aussi fait une variante, le Gewürztraminer, le Tramineur épicé. Mais un autre parent qui a quasiment disparu, et qui s'appelle le Saint-Georgerner. Alors là, je crois qu'il restait un pied.
Un pied.
Mais on l'a sauvé.
Il y avait une grappe. Il compliqué pour marcher.
Non, mais c'est une histoire dramatique. On l'a vandalisé, mais on a réussi à sauver des bouts de bois et on est en train de le repropager. Donc l'ADN est fait. On sait maintenant qui sont les deux parents. Ouf. Le Grünwertliner, pourquoi il est intéressant? D'abord parce qu'il produit de très très bons vins, évidemment. Si on le regarde du point de vue autrichien, c'est 30% du vignoble autrichien. Donc c'est une énorme proportion. Mais on le trouve du coup dans tous les pays voisins. Il y a un tout petit peu qui a migré à travers le pass de Brunner dans le Alto Adige, la partie nord de l'Italie, qui autrefois s'appelait le Sud-Tyrol. D'ailleurs, les habitants l'appellent le Sud-Tyrol, ils parlent allemand, parce que ça faisait partie de l'Autriche jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on le trouve un tout petit peu en Allemagne, autour de Stuttgart, par exemple, et puis dans d'autres pays voisins, comme la Tchéquie, et puis la Slovaquie et l'Hongrie. Voilà, donc c'est très localisé dans cette partie Europe centrale. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il peut produire toute une gamme de vins, un peu comme le Chardonnay ou le Chenin blanc, en France, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des bulles, des vins très légers et vifs, des vins très complexes et riches, et éventuellement des vins liquoreux, mais c'est assez rare. Les régions de production en Autriche qui sont les plus intéressantes, c'est essentiellement le long du Donau, le Danube, et en amont du capital Vienne, notamment dans les régions Comtal, Kremstal, Wachau, et puis dans la partie nord qui s'appelle le Traisinstal, où c'est plutôt plus plate et le climat est plus frais, donc on a des vins plus basiques, je dirais, vifs et simples. Si on veut qualifier le profil, je déteste faire ça parce que généraliser sur un cépage, c'est vraiment conduire les gens en erreur. Je dirais que la chose le cépage qui s'y rapproche le plus en France, ça serait peut-être le Chenin blanc. Autrement dit, qu'il a des caractéristiques à la fois du Chardonnay et du Riesling, c'est-à-dire une très forte acidité, comme le Chenin là, mais aussi une capacité dans des rendements, quand le rendement est abaissé, quand le vigneron est très soigneux, de produire des vins d'une très grande richesse et complexité.
Il a la même plasticité que le Chenin ?
Oui, exactement. Ouais. Exactement, parce que le Traisental que j'ai cité, c'est des vins plutôt simples, vifs et légers. Or que Wachau, sur les parties très en terrasse, en colline, et là, ils ont élaboré une notion de première crue, hein, les Herstellagen, et même à Wachau, une mention spéciale qui s'appelle le Smaragd. Alors, Smaragd, c'est un lézard, donc ça indique la chaleur qui tape contre les murs en pierre, et quand le lézard sort, ça veut dire que les raisins vont être très, très mûrs. Donc ce vin est vraiment, ce cépage a une énorme possibilité. Moi j'ai goûté des choses fabuleuses. On peut trouver certains vins en France, d'ailleurs j'en ai bu il n'y a pas très longtemps dans un bar à vin, ça m'a un peu surpris. Je vais vous donner des noms,
bien sûr,
des
David, noms
des meneurs. Alors Brundlmeier, c'est peut-être le plus connu, magnifique vin. Schloss Goblosberg, j'ai déjà fait référence. Leumer, on trouve ces vins en France. Hubert, aussi importé. Après Knoll, Nigel, FX Pichler, Domaine Wachau et Präger. Alors, pour les prix, parce que vous me demandez toujours les prix. Donc
c'est important, David.
C'est important, c'est... oui.
Une fourchette de prix, moi.
Alors, on peut trouver des entrées de gamme en Autriche entre 6 et 10 euros.
Hein,
ça, c'est souvent des vins de la région de Traisental. Après, pour les entrées de gamme des producteurs que j'ai mentionnés, qui sont quand même un peu prestigieux et dans les régions prestigieuses aussi, je rappelle que l'Autriche a un système de DAC qui est en latin, mais c'est l'équivalent des AOC en France.
D'accord.
On est entre 14 et 18 euros. Et pour les crus, les monoparcellaires qui ont une capacité de garde, qui ont un élevage long, on est plutôt 30 à 40, 45 euros.
Et on peut en trouver donc en France, ou alors c'est
on
par
peut
hasard
en trouver en France,
le bar à vin dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, non, il y a des importateurs. Alors c'est pas très répandu, mais les bons bar à vin, les bons cavistes,
on peut en trouver,
il y a
quoi.
Des importateurs, on peut les trouver.
Merci beaucoup David Cabold.
Très grand cépage. Et à mon avis, qu'il y a un avenir, on commence à en planter en dehors de ces régions.
Oui, il y en a en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de
Nouvelle-Zélande. J'en ai goûté un très bon, l'Australie un tout petit peu, l'Oregon, la Californie, Et maintenant, c'est
en
autorisé.
Hongrie aussi, peut-être, non ?
Oui, Hongrie, j'ai cité. Mais c'est autorisé maintenant en France.
En France. À suivre, merci beaucoup, David Cobold. Invino Sud Radio retrouve Philippe Forbrac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, hein, boulevard Haussmann, pour nous amener en Moselle, mais version Bacchus quand même.
Version Bacchus, et puis la Moselle, elle peut être diverse. Hein.
Oui.
On connaît la Moselle luxembourgeoise, très célèbre, qui produit de très jolis vins d'ailleurs.
Avec
la Moselle,
bulles et sans bulles.
Avec bulles et sans bulles, exactement, surtout les blancs. La Moselle allemande, bien entendu, c'est une région incroyable. Je ne sais pas si les filles du World Wine Women
vous avez visité
sont allées
pas,
là-bas, mais franchement, c'est pas très loin. Mais
vous préférez les pays chauds, vous, non
hein, il y a des vins assez extraordinaires, avec notamment des Riesling, juste vraiment d'une précision assez extrême. Et puis il y a la Moselle française. Alors, quand on parle de la Moselle, franchement, on ne pense pas directement au vin.
Non.
Quand on va entre Nancy et Metz, on voit plein de choses, mais on ne voit pas nécessairement des vignes.
Et pourtant, ce petit vin de Moselle, cher à Brel.
Celle de notre ami Jacques Brel, effectivement, revit de ses cendres. Parce qu'il faut vous dire que, alors ça fait très très longtemps, hein, même moi je n'étais pas né, c'est pour dire, en 282 de notre ère, Produce, le célèbre empereur qui a mis fin au règne de Domitien, qui avait interdit le développement de la culture de la vigne. C'était en 92 après Jésus-Christ, et donc à la fin du 3e siècle, Domitien a dit, Probus pardon, a dit on peut planter. Et il y a eu jusqu'à 40 000 hectares de vignes dans le secteur de la Moselle, ce qui fait effectivement un des très grands vignobles de l'époque.
C'était pas le réchauffement climatique à l'époque.
Non, c'était le réchauffement climatique, mais il y avait une zone tampon entre effectivement ce secteur-là du monde, hein, qui était, et de l'Europe en particulier.
Je pense que les vins ressemblaient étrangement à de l'acide de batterie.
C'est possible.
Bon, il n'y avait pas de voiture à l'époque, mais c'est pas grave.
D'ailleurs, il n'y a pas eu de survivants. Hein. Il ne reste personne pour en parler, la preuve.
Mais ça fait les trous dans les estomacs.
C'est assez énorme. Aujourd'hui, que Nenni et Charlemagne a disparu. Et,
c'est pas vrai.
Il adorait les 27 de
ce Charlemagne a disparu.
C'est fou. Vous n'avez pas lu ça sur Facebook.
Mais c'est du délire.
Oui. Il faut actualiser votre compte Instagram, monsieur.
J'y vais tout de suite. Voilà.
Et donc, aujourd'hui, il y a 500 000 bouteilles seulement de produits sur 70 hectares. Pardon. Ça fait très peu.
De quel cépage?
Alors, les rouges influencent bourguignonne. Hein, on a du gamay et du pinot noir. Et notamment dans la partie sud de l'appellation, ce qui semble assez logique parce que c'est la partie la plus ensoleillée, finalement. Et puis, dans la partie nord, qui jouxte un peu avec la frontière allemande et luxembourgeoise, ben, c'est les blancs de type germanique, dont David nous a vanté les mérites tout à l'heure. Alors, il y a pas de Grüner Veltliner, mais on pourrait y en avoir. Mais il y a du Gewürztraminer, il y a un peu de Sylvaner, il y a du Riesling, bien entendu. Mais il y a aussi de l'Auxerrois, enfin du Pinot Blanc. Enfin, il y a différentes choses, même du Muscat qu'ils ont planté là-bas, histoire de dire que
il y a un pied
loin de l'Alsace.
Ils sont optimistes.
Exactement, et c'est assez intéressant. Donc, ça donne des vins, alors qu'ils peuvent rouge blanc, effectivement, en cépage, rouge blanc et gris, parce qu'il y a le gris, le fameux gris Toul qui est donc finalement dans ce secteur, même s'il en a appellation distincte, est un
Alain,
qui a une certaine
notoriété. C'est un grand spécialiste du gris du Toul.
Oui.
Il adore ça.
Oui, j'étais lié au gris Toul, d'ailleurs.
Mais le sous-sol est plutôt de type argilo-calcaire, ce qui favorise assez bien, finalement, la fraîcheur des vins blancs dedans, des raisins avec une jolie plutôt acidité, un côté alcalin qui les précise. Et puis, il y a le Müller Turgot également, qui est un cépage intéressant, qui passe par là également. Donc, on a plutôt des monocépages. Voilà. D'ailleurs, dans l'appellation Moselle telle qu'elle a été définie aujourd'hui, on ne peut plus faire de vin d'assemblage. A priori, il n'y a que monocépage. Il faut que le cépage soit marqué sur l'étiquette pour pouvoir effectivement distribuer. C'est une obligation effectivement de l'appellation. Alors, parmi les domaines les plus célèbres, le Château de Vaux, repris en 99 par le couple Molosé, s'impose comme un peu le vignoble de référence,
oui,
en tout cas de cette appellation. Et ils produisent une quinzaine de cuvées. Donc, le fait de faire des monocépages, ça multiplie automatiquement le nombre de cuvées produites. Ils font des vins rouge assez intéressant, notamment la cuvée Septentrion, qui est un vin rouge fait dans l'esprit bourguignon, donc avec une jolie maturité déjà de fruits, et ensuite pas chaque année du coup, parce qu'il faut que le raisin soit bien mûr, avec un élevage en fût, et ça donne finalement un vin que j'ai trouvé très intéressant. Pas donné, hein, c'est automatiquement des petites cuvées. On est pour ce genre de vin entre 20 et 25 euros à peu près.
Quand même.
On pose déjà effectivement, mais c'est les cuvées haut de gamme. Hein.
Oui.
Voilà, le pouvoir d'achat des luxembourgeois aide à la commercialisation de leurs vins. Mais il y a aussi des vins beaucoup plus accessibles. Ils font des rosés ou des gris qui sont à moins de 10 euros, qui sont vraiment très agréables. Et puis ils font des effervescents, on n'est pas loin de l'influence effectivement de ce qu'on peut faire également du côté luxembourgeois. Et puis des moelleux également. Je parlais tout à l'heure justement du muscat ou d'autres cépage qu'ils utilisent également pour faire des vendanges dites tardives. C'est pas inintéressant de voir ça dans ce secteur-là. On n'est pas très loin, je l'ai dit tout à l'heure, de l'Allemagne ou de l'Alsace. Et il y a d'autres domaines, des petits domaines également, que le domaine des Béliers, le domaine de Stromberg, le domaine de la Joyeuse. Finalement, la gamme est très large de styles de vin, entre les secs, les moelleux, les effervescents, les rouges, les gris, etc. Il y a finalement un vin de Moselle à mettre dans chacun des verres, un peu dans tous les moments de la vie.
Oh, merci, c'est joli ça. Merci Philippe Forbrac, et merci également à vous.
C'est le seigneur.
Hélène Pio, Aurélie, David, bah évidemment, Talente et Elisabeth, hein, avec un joli bon voyage pour vous en tout cas. Merci aussi à Angeline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, hein, samedi à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous serons chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.